Le dimanche matin, ça va bien. On vient de chanter. Il est exalté. Il est Seigneur. Sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il me semble, Mario, je m'entends pas mal. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. C'est un temps qu'on appelle. On reconnaît pas ça aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, hein, avec les événements qui se passent au Moyen-Orient. Et on en discutait tantôt. Est-ce que c'est les temps de la fin qui sont commencés? Moi, je dis aux frères, j'aime pas ça dire ce qui se passe relié à tel verset, telle prophétie. Quand, après la résurrection, dans le livre des Actes, les disciples ont demandé au Seigneur, « Est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir ton royaume? » Et le Seigneur a dit, « C'est pas à vous de connaître ça. Le Père s'occupe de ça. » Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est aveugle. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de regarder ce qui se passe. On est dispensationaliste. Ça veut dire qu'on croit à des dispensations dans le plan de Dieu. C'est pas dans le message en passant, c'est un petit à côté, là. Et la Bible en mentionne au moins deux très clairement. Hein? La loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. La loi et la grâce sont deux dispensations différentes. Et à la fin de la grâce, l'Église va être enlevée. Et Israël va être rétabli. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que je crains qu'Israël va être anéanti? Pas du tout. Ça se peut pas. Parce que Dieu veille sur Israël, comme il a toujours vécu, veillé sur Israël dans le temps des rois. Vous vous rappelez, il a toujours resté quelqu'un de la lignée du roi pour assurer la royauté. Dieu veillait. Et Dieu veille encore sur son peuple. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu veille sur son peuple et Dieu, éventuellement, va rétablir Israël. Donc, est-ce qu'on est plus proche de la fin? On l'est plus aujourd'hui qu'on l'était hier. Puis moins que demain. Demain, on va l'être plus. Mais est-ce que ça veut dire que c'est en train de se passer? Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Mais je me préoccupe plus de ma vie chrétienne que de ces choses-là. Malgré que ça veut pas dire que ça me touche pas, vous savez. Je dis aux frères, on est pro-israélien parce que c'est le peuple de Dieu. Ça veut pas dire qu'on approuve tout ce qui se passe. Loin de là. Loin de là, mais on sait que l'enlèvement va arriver et on sait que au retour du Seigneur, le retour se fait en deux phases, qu'on croit, d'une façon invisible, l'Église va être enlevée dans le ciel, on va à la rencontre du Seigneur, il ne revient pas sur la terre à ce moment-là, et quand il va revenir, il va rétablir son royaume et Israël sera restauré. Et le frère posait la question, ils vont reconnaître celui qu'ils ont persiste à ce moment-là. Donc, oui, il y a un avenir pour Israël. Et c'est pas une opinion, c'est un fait biblique. On n'est pas dans le sondage d'opinion. On est dans la reconnaissance de la vérité biblique. Et mon frère m'a demandé aussi, avant de aller dans 1 Pierre, de dire quelques mots sur Publication chrétienne, sur le dernier voyage missionnaire qu'on a fait à Madagascar au mois d'août. Madagascar, c'est loin. C'est très loin. Très, très loin. Je me souviens plus combien d'heures d'avion, là, mais écoutez, je suis parti lundi matin, je suis arrivé là-bas mardi en fin de journée. Et il n'y a pas eu tant d'escales que ça. C'est certain qu'il y a un décalage de 6 heures, je pense, là. Mais faire un projet comme ça, d'aller distribuer des boîtes, 1000 boîtes de 35 livres ou 37, je ne me rappelle plus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Parce que, et je ne suis pas en train de me plaindre, là. Je veux juste vous expliquer. Faut décider avec le partenaire là-bas quel livre il va prendre. Parce qu'on n'envoie pas nos restants de livres qui ne se vendent pas. Là. On n'envoie pas nos vieux livres. Les gars, on va vous passer ça en Afrique. Vous êtes comme l'église de bas de classe, vous autres, en Afrique. Non, 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 non. On choisit avec eux les titres qu'ils pensent et qu'on pense qui vont être utiles pour l'église locale, pour les leaders, pour les pasteurs, pour les anciens, pour les serviteurs. Et on fait imprimer 1000 fois ces livres-là. C'est des livres flambant neufs qui arrivent là-bas. Là. On ne leur donne pas des restants. Donc, tout ça, gérer ça, c'est quand même pas mal de travail. Et un coup, c'est imprimé. Il faut les expédier dans ces pays-là, en l'occurrence Madagascar. Et c'est un conteneur plein, 20 palettes. Vous savez, un skin, une palette, là, 20 palettes, plein de livres, qui s'en va là-bas. Donc, il faut tout coordonner ça. Et cette année, à Madagascar, il y avait l'inauguration d'un séminaire. Un séminaire qui est sponsorisé. Comment on dit ça? Sponsorisé, qui est je ne sais pas comment dire. Comment? Commandité. Merci. Commandité par une école en Californie, TMAI, The Master Academic International. C'est le master, c'est le séminaire qui est annexé à l'église Grace to You, là où John MacArthur est pasteur. C'est le master, c'est là que Martin Lébreux fait ses études. En fait, il est fait à distance, celui-là. Là. Mais le certificat qu'il va avoir, s'il fait bien ses devoirs, comme on dit aux enfants, si tu vas mettre un devoir, tu vas avoir un diplôme avec un son. Mais ce qu'il va avoir, Martin, ça vient du master. Donc, c'est connecté. Donc, c'était l'inauguration du séminaire avec notre distribution. Et les gens, j'ai été très impressionné du niveau d'études des gens du séminaire qui, entre vous et moi, et je dis pas ça de façon méprisante, mais on l'a de rien, là, tu sais. Comme moi, peut-être aussi, là, tu sais. C'est des frères qui ont l'air des paysans, qui sont des paysans. Et encore une fois, je dis pas ça de façon méprisante, mais c'est des gars qui maîtrisent l'hébreu, qui maîtrisent le grec et qui continuent leurs études. On n'est pas, là, dans une tribu de tam-tam, là, loin de là, là. Malgré que c'est un pays extrêmement pauvre. De loin plus pauvre que ce que j'ai vu au Togo. Je vous montrerai les maisons, là, pas toutes les maisons, mais surtout quand on est arrivé, quand je suis sorti de l'aéroport, il y a quelqu'un qui m'a amené jusqu'en ville. C'était la capitale où j'étais, et les maisons sur le bord des deux bords là, de la route, là, c'est même pas des taudis, là. C'est une coche en bas de ça. Là. Puis les gens sont extrêmement pauvres, mais extrêmement souriants et heureux. Heureux. Et particulièrement les gens de l'Église. Particulièrement les gens de l'Église. Des Églises, je devrais dire. Écoutez, quand là-bas, les livres n'existent pas, sont pas disponibles. Même si on leur donnait des sous, pour dire, va t'acheter un dictionnaire biblique, il n'a pas, là. Tu sais, c'est comme dire, va t'acheter une paire de bottes d'hiver là-bas, il n'a pas, là. Tu sais, il ne pourra pas en acheter. Fait que d'arriver avec nos livres, eux, c'est Noël pour eux. Et quelqu'un m'a demandé comment ça a commencé, ce projet-là, le projet d'aller à Madagascar, un des frères là-bas. Et j'y ai dit, écoute, d'après moi, ça a commencé avant la fondation des temps dans le ciel. C'est là que le projet a commencé, parce que nous, on a simplement fait ce que Dieu a permis qu'on fasse. On n'est pas des. On est juste des serviteurs. Et quand on donne. Il y a un monsieur, là, quand on donne une boîte de livres, il y a un monsieur qui m'a pris dans ses bras, là, puis qui s'est mis à pleurer, à peu près 1 minute. On va dire quelque chose, là, c'est long, 1 minute. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, moi, je fais de la glace. Mais la glace, ça fond. Fait que c'est extrêmement émouvant de vivre ça, de voir comment ils sont reconnaissants. Et les boîtes, tout le monde nous dit de ne pas donner les livres, de les vendre. Et on les vendait 5% de la valeur. 5% de la valeur de la boîte. Et je demandais à des gens, qu'est-ce que ça représente pour toi, ce montant-là? C'est en, je ne me rappelle plus c'est quoi le monnaie, là, mais. Et plusieurs m'ont dit, c'est 5, 6 semaines de travail. Plein. Imaginez ça, là. 5, 6 semaines, là, ma paye pleine, là, je la mets pour ça. Pas pour le loyer, pas pour le manger, pas, je la mets pour ça. 5, 6 semaines. Malgré que c'était 5%. Donc, c'est des gens pauvres et c'était des gens très, très reconnaissants. Très reconnaissants. Donc, on est encouragé de continuer ces œuvres-là. Et comme vous savez, je pense que je l'avais dit pour le Togo, puis c'est la même chose pour Madagascar, 35 livres, c'est bien, tu sais, quelqu'un qui n'a pas accès à aucun livre dans les d'avoir 35 livres, ça fait à peu près ça de large, là, si tu les mets tout un à côté de l'autre. Mais quand on regarde ça, 35, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Tu sais, c'est beau, là, mais c'est pas tant que ça. Donc, ce qu'on a fait l'année passée au Togo et qu'on a refait cette année, on a eu l'intelligence de le faire en même temps que les livres. On a choisi, on n'a pas choisi, en fait. On a pris un livre de chacun de nos titres à publication chrétienne, à peu près 500 livres. Donc, un de chacun des titres. Et on a fait une bibliothèque qu'on a envoyée à deux séminaires. Donc, il y a deux séminaires qui ont reçu chacun une bibliothèque. Fait que les frères qui veulent aller plus loin ont accès à tous nos livres via le séminaire. Ils peuvent aller emprunter. C'est comme une librairie, là, d'aller emprunter. Et l'année passée, en voyant au Togo que, en réalisant, c'est beau, 35 livres, mais c'est pas tant que ça, on a envoyé les bibliothèques par après. Donc, on a repayé du transport. Cette année, on s'est dit, on va le faire en même temps. Fait que c'est parti. Tout est arrivé en même temps. Et là-bas, écoutez, je vous dis, 20 palettes, là, ça fait des boîtes en sirop d'érable, on pourrait dire, là. Je ne sais pas comment ils ont fait pour apporter ça au séminaire. Les routes là-bas, là, c'est épouvantable. Épouvantable comment c'est. Il y a des trous, comment c'est. Mais ils ont travaillé fort. Ils ont vraiment travaillé fort, les frères là-bas, pour faire ça. Donc, on est très reconnaissant et on travaille actuellement sur le même genre de projet en République centrafricaine. La République centrafricaine, c'est près de. C'est un pays frontalier du Cameroun. Donc, rentrer nos livres par le Cameroun. Et là, on s'est dit, tant qu'à rentrer au Cameroun, c'est un pays francophone aussi, peut-être qu'on va faire les deux pays en même temps, mais on verra comment Dieu va diriger, parce qu'on est extrêmement dépendant de la grâce de Dieu dans ces projets-là. Mais tout ça pour dire que on voit se dessiner un aspect missionnaire à publication chrétienne. Presque autant que l'aspect d'édition, d'éditer des nouveaux livres. Et moi, j'ai vraiment ça à cœur. J'ai la conviction, et je suis convaincu que vous l'avez vous aussi, j'ai la conviction que l'Église de Dieu en Afrique, l'Église locale de Dieu en Afrique, a pas moins de valeur que Sainte-Marie et que Saint-Jean. Et que Sainte-Foy. Pour Dieu, là, vous savez, c'est pas un classement, là, c'est pas comme la Ligue nationale où il y a un classement, là. On est tous des enfants de Dieu. Et nous, on a le privilège d'avoir ces ressources-là, d'avoir ces moyens-là, avec l'aide des partenaires, des églises qui nous aident, des ministères américains. Donc, on veut mettre nos ressources au service des églises en Afrique parce que si nous, on ne le fait pas, il y en a d'autres qui le font. Pas beaucoup d'autres, mais d'autres qui le font avec une, disons, une doctrine que je n'enseignerai pas ici, là. Nulle part d'ailleurs. On a vu au Togo beaucoup, beaucoup l'évangile de la prospérité. Croyez et vous serez bénis. Croyez et vous aurez plus de difficultés de santé. Vous aurez plus de difficultés de dette, d'argent, de ça. C'est ça l'évangile de la prospérité. Extrêmement répandu. C'est attrayant pour eux aussi. Bon, j'en ai assez dit. J'en ai assez dit là-dessus parce que là, j'étais en train de manger mon temps pour un chapitre au complet. Je me demandais comment j'allais faire pour faire un chapitre. Je viens de m'enlever du temps. 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 14. Et on va prier pendant que vous cherchez les références. Notre Dieu et Père, on veut vous remercier pour le privilège qu'on a d'ouvrir votre parole et de l'étudier. On veut vous demander de nous parler au travers de cette étude, de nous transformer à l'image de votre Fils bien-aimé. Amen. Je commence en vous racontant une histoire que M. Grandjean m'a racontée il y a quelques années. Vous connaissez M. Grandjean? Il est encore vivant. Mme Grandjean est décédée il y a quelques années. Et M. Grandjean me raconte l'histoire d'un... Vous allez voir parce que c'est... en rapport avec les leaders d'église. M. Grandjean me raconte l'histoire de cette église locale en Roumanie, il y a plusieurs années, où la foi chrétienne était défendue, et non seulement défendue, mais persécutée et chassée, c'est-à-dire que la police chassait les croyants. Je me promène du trop, Mario? Non? Okay. Il y a un groupe de croyants qui est réuni dans une salle comme ici, peut-être, je ne l'ai pas vu, là, mais un petit groupe de croyants, et ils rentrent deux soldats avec les fusils. Et ce que je vous raconte là, c'est une histoire vraie. Là. Et les soldats disent aux croyants, c'est votre dernière chance, si vous ne voulez pas être fusillé parce que vous êtes chrétien, vous pouvez sortir. Et là, il y a une couple qui se lève et qui sort. Et les soldats, ils disent, on vous redonne une autre chance. Si vous ne sortez pas, ceux qui restent vont être fusillés pour leur foi. Et là, il y a parmi les gens, il y a une deuxième batch qui sort, il y a des responsables de l'Église qui sortent. Les soldats ferment les portes, prennent le fusil, mettent ça sur une chaise. Et nous, on veut devenir chrétiens, mais on voulait parler à des vrais chrétiens. Les leaders sont sortis. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échu en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Je ne sais plus si je dois mettre mes lunettes ou les enlever. C'est parce qu'il faut que je les change. Pierre a un dernier message. En fait, il y aura une deuxième épître éventuellement, mais pour le moment, il y a un dernier message qu'il veut adresser aux anciens, une exhortation qui adresse aux anciens, pluriel, aux anciens, pas à un ancien, mais aux anciens. On voit le principe du leadership de l'Église locale. C'est pas une personne, c'est pas un gourou qui mène l'Église et qui fait tout ce qu'il veut. Dieu a voulu des responsables dans une même Église. Et des responsables, ça permet de préserver, entre autres, l'équilibre doctrinal. Si il y a... Quand on est plusieurs, nous, par exemple, à Saint-Jean, on est six. Et on n'a pas tous la même pensée. Là. On n'est pas des copier-coller, là. Pas du tout. Mais s'il y a quelque chose qui se passe dans l'Église, s'il y a quelqu'un qui commence à dévier ou à penser, on est six pour le voir. On est six pour se reparler et dire, il y a cette pensée-là là, qui a été émise. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on... Vous savez, c'est comme au football, il y a, je ne suis pas un grand amateur de football, mais il y a le corps arrière qui est la personne la plus importante. Une des personnes, on va dire la personne la plus importante. Et en avant, il y a la ligne défensive. Et je vois les anciens un peu comme la ligne défensive en avant du Seigneur pour protéger l'équilibre, pour protéger la structure de l'Église. Et voilà une des raisons pourquoi c'est des anciens. Honnêtement, je ne connais pas la structure ici à Sainte-Marie. Je ne sais pas s'il y en a deux, trois, quatre, je ne sais pas. Mais je sais que vous avez la même pensée que nous là-dessus, que c'est un groupe d'anciens, la pluralité d'anciens. Et c'est ce que Pierre enseigne ici. Sans l'enseigner, il le prend pour acquis que c'est ce que Paul a enseigné dans les églises locales, et c'est comme ça que les églises locales fonctionnent. Et lui, Pierre, dit, « Moi, ancien comme eux ». On pourrait traduire « co-ancien ». Pierre aurait pu dire, attention les gars, là, moi je suis Pierre, apôtre. J'étais sur la Sainte Montagne. Puis là, dans la liste, il y a une couple d'affaires qu'il aurait pu lister là, pour dire « je ne suis pas sur le même pied que vous autres ». J'en ai vu plus que vous autres. Là. J'en ai vécu plus que vous autres. Peut-être que ça n'aurait pas été une bonne chose qu'ils disent tout ce qu'il a vécu parce que comme plusieurs d'entre nous, comme moi en tout cas, il y a plusieurs fois qu'il aurait été mieux de se retenir avant d'agir, mais en tout cas, mais il n'y a pas cette pensée-là de lui-même. Il dit, moi, ancien comme eux. Il y a un principe d'humilité. Pierre a un principe d'humilité. Et il dit au verset 2, paissez le troupeau, là, c'est le devoir des anciens. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Voyez, Pierre a bien appris sa leçon, hein, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il a reçu du Seigneur, entre autres dans Jean, à la fin de l'Évangile. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Pas P-A-I-X, mais P-A-I-S. Paix, paître mes brebis. Dans Acte 20, quand Paul a pris congé des anciens d'Éphèse, il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Et Pierre de dire, paissez le troupeau de Dieu. L'Église locale ne nous appartient pas. Vous savez, à Saint-Jean, François, il fait de la télévision, il est plus connu que les autres. Et à un moment donné, dans une église locale, il y a quelqu'un qui me demande, il dit, tu vas à la même église? Non, il dit, tu vas à l'église de François Fréchette? Ben, je dis, écoute, je ne sais pas s'il l'a acheté, là, mais à la dernière nouvelle, c'était l'église de Dieu à Saint-Jean. Il dit, c'est ça que je voulais dire. Là. Mais l'église ne nous appartient pas. C'est le troupeau de Dieu. Jamais aucun de nous n'a donné sa vie, n'a donné son sang, peut dire qu'on a racheté. C'est le Seigneur qui a racheté l'Église locale. Et nous, on est les bergers. Presbytéros, c'est ceux qui prennent soin du troupeau. Et de paître le troupeau, le mot paître, ça veut dire, je n'ai jamais été berger, là, ni cultivateur, mais c'est d'amener le troupeau, là où il y a de la nourriture, c'est de s'assurer que le troupeau est bien nourri, que le peuple de Dieu est nourri selon la saine doctrine. C'est ce que Paul dit dans Acte 20. Hein? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est une des responsabilités des leaders d'Église de s'assurer que l'Église locale est bien nourrie, est bien enseignée, qu'il y a un fondement doctrinal, que ce n'est pas une question d'opinion. Voici ce que moi je crois et que je veux que vous adhériez. C'est ce que la Bible enseigne. Je veux que vous adhériez à ce que la Bible enseigne. Et c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut enseigner dans l'Église locale. C'est pour ça que j'aime l'exposition des Écritures. Parce que ce qu'on dit sort du texte. Exposition. Ex, ça veut dire sortir de exposition des Écritures. C'est pas de rentrer mon opinion. Ça m'est arrivé souvent d'entendre un message, quelqu'un lit un ou deux versets, ferme la Bible, puis là, après ça, c'est un prétexte. Il vient de lire un prétexte pour dire ce qu'il pense. Et c'est important qu'on s'assure de paître le troupeau avec la parole de Dieu. Voilà. C'est un travail volontaire, de bon cœur, par amour. C'est pas un job. On ne fait pas un job. On rend un service. On est des serviteurs de l'Église locale. Oui, on supervise. Un leader, là, non seulement, c'est pas celui qui arrive le premier en haut de la montagne, c'est celui qui amène tout le monde en haut de la montagne. Et oui, c'est correct d'être en avant, mais il faut aussi être en arrière pour s'assurer qu'il n'y a personne qui est en train de partir sur un mauvais chemin. Là. Donc, ça prend de l'humilité. Il faut le faire par amour pour l'Église locale. Je vous raconte une petite histoire personnelle. Là. Parce que je vous raconte ça parce qu'on prend soin du troupeau de Dieu. Et moi, comme vous savez, je suis à Trois-Rivières mardi, mercredi, jeudi, 3 jours par semaine. Je suis loin de mon épouse. Ça commence à me peser en passant. Mais en tout cas. Et sa sœur la reçoit pour souper à toutes les semaines. Et je suis très content de ça, que quelqu'un prend soin de Christine. Et je veux être reconnaissant avec sa sœur. Et je vous raconte ça parce que Dieu nous a confié son troupeau et je suis convaincu. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Touche pas à mon épouse, là, parce que ça ira pas bien. Et l'épouse, l'Église locale est précieuse au cœur de Jésus-Christ. Prenons soin de cette épouse. J'avance parce que le temps avance. Tu moyen de mettre ça off, cette horloge-là? Pierre parle d'une couronne. Vous obtiendrez une couronne de gloire. Il n'est pas en train de courir après une version incorruptible d'une couronne terrestre. On pourrait traduire la couronne incorruptible qu'est la gloire. Il y aura une récompense. On ne le fait pas pour une récompense, mais il y aura une récompense. Mais Pierre ne s'adresse pas juste aux anciens, il s'adresse à l'Église. De même, vous qui êtes jeunes, on ne sait pas vraiment à qui s'adresse quand elle dit « vous qui êtes jeunes ». Parce que toute l'Église doit être soumise aux anciens. Pas juste les jeunes. Peut-être c'est les jeunes en formation qui doivent être soumis au groupe d'anciens. Soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. La combinaison d'un leadership pieux, ça veut dire qui craint Dieu et qui veut respecter Dieu, et d'une église soumise, devrait se traduire par une attitude d'humilité, de respect mutuel dans l'ensemble du corps de l'Église. Ce vêtu d'humilité suggère que l'humilité fait partie de notre garde-robe. Ce n'est pas un effort d'être humble. C'est une position qu'on devrait viser. Parce que Pierre n'est pas en train de dire, ça serait peut-être une bonne idée s'il y avait quelques-uns dans l'Église qui seraient humbles. Il ne dit pas ça. Revêtez-vous d'humilité, c'est un impératif. Revêtez-vous d'humilité. Et Pierre sait très bien de quoi il parle. Le mot « revêtez-vous », c'est un esclave qui mettait un linge autour de lui pour aller servir. Je ne sais pas si ça vous dit, si vous pensez que Pierre a relié ça avec un événement dans sa vie où le Seigneur s'est revêtu, le Seigneur s'est revêtu un linge et a lavé les pieds de ses disciples. C'est les mêmes mots qui sont utilisés. Et Pierre dit, si le Seigneur l'a fait, nous aussi, on doit le faire. On doit être humble. On ne doit pas être orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et dans le texte qu'on vient de lire, ça nous dit lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même. Et on peut se décharger sur lui de tous nos soucis, justement parce que lui-même prend soin de nous. Ce n'est pas un subordonné. C'est pas, je serais déjà content que ce soit un ange, mais c'est pas ça que ça dit. Ça dit lui-même. Je ne sais pas si on réalise ça comme il faut, là, que Dieu lui-même prend soin de nous. Il a le temps, il a la vision, il a la volonté de prendre soin de nous. Voilà pourquoi on peut se décharger sur lui de tous nos soucis. Et nous, on est des gens qu'on va dire qu'on croit à la Bible 100%. La Bible est inhérente, ça veut dire elle n'a pas d'erreur. On croit à la Bible tout ce qui est écrit de... On croit-tu vraiment à ça? Est-ce que ma vie démontre que je crois à ce que la Bible dit? Ou si il y a des soucis que je me dis, je suis mieux de m'en occuper moi-même. Dieu, peut-être qu'il ne comprend pas comment je suis urgent, là, comment je suis pressé là-dedans, là, mais je vais m'en occuper moi-même. Mais c'est pas ça que le texte dit. Et c'est pas seulement ce texte-là qui dit ça. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie et de ce que vous mangerez, etc. Luc 10, 41, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est la Bible nous répète, ne vous inquiétez de rien. Maintenant, ne vous inquiétez de rien n'égale pas ne vous inquiétez de rien, vous n'aurez jamais de trouble. C'est pas ça que ça dit. Ça se peut qu'on va être dans le trouble. Et même la Bible nous le promet, hein? Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Ça va arriver, là. Inquiétez-vous pas, là. Ça va arriver. Et c'est juste une normalité. D'abord dans notre foi par rapport aux autres qui vont nous attaquer, qui vont nous, je suis pas sûr, j'ai envie de dire persécuter, parce que pas certain qu'on vit la persécution ici, mais en tout cas mépriser peut-être ou ridiculiser. Mais en même temps, notre foi va être, et le texte qui suit va nous le confirmer, va être attaqué par l'ennemi, par l'adversaire. Donc, est-ce que de nous inquiéter de rien veut dire, je n'aurai pas de trouble, je ne manquerai pas d'argent, il va faire chaud, il va toujours avoir de la soupe. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que Dieu veille sur chacun de nous. Et Dieu sait au-delà de nous qu'est-ce qui est bon. Hein? Imaginons-nous Jean-Baptiste, qui lui est dans sa prison, ne m'inquiète pas, ça va bien aller. Il finit la tête coupée. Ça n'a pas été comme il pensait, peut-être. Moi, en tout cas, je n'aurais pas pensé ça. Est-ce que Dieu l'a oublié? Non. Est-ce que Dieu l'a manqué? Il est arrivé quelque chose que Hérode a fait, puis qu'est-ce que tu veux, Dieu ne peut pas contrôler ça? Non, non. Dieu contrôle absolument tout ce qui nous entoure. Et Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Laissez-moi aller. Maintenant, il faut être intelligent, hein? Faut pas se mettre dans le trouble nous autres-mêmes. Puis après ça, dire, ah, Dieu, je te fais confiance. Tu sais, si on se met dans le trouble, on se met dans le trouble nous-mêmes, là. Faut pas, comme je dis, faut être intelligent. Mais les circonstances qu'on contrôle pas, Dieu les contrôle. Et ultimement, peut-être, ce sera seulement dans la gloire qu'on verra les résultats. Qu'on verra que Dieu veillait à toute chose. Peut-être. Quand je dis peut-être, ça veut, je ne suis pas en train de dire que peut-être on ne le verra jamais. Je suis en train de dire que peut-être on ne le verra pas ici. Et qu'on aura une épreuve ici, qu'on ne verra jamais la lumière ici. Ici sur, pas ici à Sainte-Marie, là, mais ici sur Terre. Hein, qu'on, on ne verra pas le plan de Dieu. Mais Dieu a un plan. Et il dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Votre adversaire, le diable, rôde. Ici, l'image est saisissante. Hein? Le diable est appelé notre adversaire. Il est l'adversaire de Dieu. Il est notre adversaire parce qu'il nous accuse, mais il est notre adversaire. Adversaire, dans le mot pourrait être aussi traduit dans un sens légal. L'avocat de l'autre côté qui est en train de m'accuser, c'est l'adversaire. Ou un adversaire militaire, c'est quelqu'un qui veut te détruire. C'est ça que le texte dit. Il dit « Veillez, car votre adversaire rôde ». Et le danger, c'est de se ramollir. C'est de se dire, après un certain temps, ben, finalement, je n'ai pas besoin de mon épée parce que je n'ai pas personne à combattre, puis à me nuit. Puis après ça, on va enlever l'armure, puis après ça, on va enlever, je ne sais pas quoi, le casse. Puis la bataille arrive, et là, on n'est pas prêt. Il faut être prêt. Il faut veiller. Parce que notre adversaire, lui, tu sais, des fois, on se dit, on a prié, aujourd'hui, je l'ai envoyé l'autre bord de la chaloupe, je l'ai sorti de ma chaloupe, mais il s'est nagé. Il revient. Demain, il va revenir. Il va essayer. Surtout, si on est actif pour l'Évangile. Vous savez, si on est actif pour l'Évangile, pour le service de Dieu, l'adversaire ne va pas regarder ça en disant, on va laisser ça aller. Non, non. Il va essayer de nuire. Il va essayer de mettre des bâtons dans les roues. Donc, oui, on a un adversaire. Et c'est l'adversaire de Dieu aussi. C'est pas surprenant qu'il soit notre adversaire. Mais le texte nous dit, veillez. Résistez-lui avec une foi ferme. Résister, quand on résiste à quelque chose, c'est parce que ça se répète. Hein, c'est quelque chose qui est répétitif. C'est ça le sens du mot, résister. Attendez-vous que ça va revenir. Et quelqu'un a dit, Satan est puissant. Oui, mais il n'est pas tout puissant. Et Satan n'est pas plus puissant que Dieu lui permet. Il y a des limites. Et c'est Dieu qui établit ces limites. Nous, on travaille avec celui qui est tout puissant. Résistez-lui avec une foi ferme. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Vous vous rendez compte, hein? Encore ici, là, c'est pas des délégués qui vont vous perfectionner. Il y a plusieurs années, je vous raconte ça vite, là, parce que ça va vite, mon patron me demande, je travaillais dans l'imprimerie, et j'étais opérateur de scanner, tu sais, il faisait des séparations de couleurs, et il me demande, est-ce que tu parles anglais? Je dis, oh, ouais, c'était sûr pas mal la vérité, ouais, c'était pas non, mais c'était pas oui non plus. Fait qu'il me dit, je vais t'envoyer suivre un cours à Chicago. OK, donc, je m'en vais là. Et c'est des scanners japonais qu'on avait, Dynapen Screen. Et moi, j'avais un dictionnaire français-anglais. Et j'arrive là, et je suis tout seul dans la classe. Et le monsieur qui est en avant, c'est un japonais. Et lui, il a un dictionnaire japonais-anglais. Il était payé comme moi. J'étais content. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que on avait un gros livre de théorie, là, tu sais, une couple de 300-400 pages, peut-être. Puis il m'expliquait quelque chose, puis il me disait, page 216, page 324, en haut. Je connais ça, tu sais. Fait que, je lui dis, tu le connais, le livre, hein? Et là, il me dit, ouais, c'est moi qui l'ai écrit. J'étais à la source. Dieu dit, lui va nous perfectionner. Pas un second. Pas quelqu'un qui... pas pire. Dieu lui-même va nous perfectionner. C'est marqué, perfectionner, affermir, fortifier, rendra inébranlable. Ça, c'est ce que Pierre dit, Dieu va faire ça à l'Église locale, va vous faire ça à vous qui êtes croyants dans l'Église locale. Faites confiance à Dieu. Dieu peut faire ça. Il va faire ça au travers des... J'avais un enseignement mardi, je pense, sur un Jean, et Dieu va utiliser de ses enfants. Dieu va, parfois, dans une conversation fraternelle, Dieu va utiliser nos frères, nos sœurs, nos lectures par le Saint-Esprit. Dieu va nous fortifier, affirmer, rendre capables. C'est Dieu qui va le faire. Et là aussi, Pierre ne dit pas, si ça y tente, Dieu va... Il ne dit pas ça. Il dit, Dieu va faire ça. Pierre n'est pas en train de donner un ordre à Dieu, mais il y a cette conviction, cet enseignement que Dieu va le faire. Et les versets 11 à 14, c'est la conclusion, la fin de l'épître. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est une doxologie. Pierre éclate hein, dans une doxologie, rend gloire à Dieu, une parole de gloire, doxologie, c'est ça, avec tout ce qu'il vient de dire, tout ce qu'il vient de réaliser, il éclate en louange. Et la dernière chose que je voudrais vous laisser, parce que c'est le verset 12, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle. Et là, je lis ça, puis je dis, waouh! Je ne connais pas Sylvain, moi, là. Mais il est appelé par le Saint-Esprit un frère fidèle. Pierre trouve que c'est un frère fidèle. Et je me suis posé la question, est-ce que je suis un frère fidèle pour l'Église locale? Est-ce que je suis une sœur fidèle pour l'Église locale, pour mes frères, pour mes sœurs? Est-ce que je suis un appui? Et un frère fidèle ou une sœur fidèle, ça fait des choses qui la dérangent. Ça rend service. Ça prend de son temps pour écouter, pour partager la parole. Vous savez, ça, en fait, quand je dis qu'il la dérange, là, ça peut être coûteux. Non, j'en reviens. Ça va être coûteux. C'est sûr. Mais Sylvain est considéré comme un frère fidèle. Je vous encourage, chacun de vous, à être considéré par les autres comme des frères et des sœurs fidèles. Et fidèle, là, ça ne veut pas dire que je viens tous les dimanches. Je suis fidèle. Mais si, écoute, m'en va. Fidèle, c'est pas ça. C'est d'être impliqué dans la vie de l'Église. L'Église, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique. C'est un organisme, ça a une vie. Et la vie, c'est vous, au travers du Saint-Esprit. Je vous encourage à être des frères, des sœurs fidèles. Je prie. Notre Dieu et Père, on veut vous remercier encore pour l'encouragement de votre parole, qui n'est pas une probabilité, mais qui est une certitude, pour l'encouragement à se confier à vous pour nos soucis, se confier à vous pour notre marche spirituelle, pour notre croissance aussi. C'est pas des probabilités, mais c'est une certitude que vous serez avec nous. On vous demande de bénir l'Église ici à Sainte-Marie, de bénir les frères, le leadership de l'Église, de bénir les membres de l'Église aussi, tous les membres du corps de Christ ici à Sainte-Marie. Notre Dieu, puissiez-vous, au travers de cette Église, maintenir et faire grandir ce témoignage puissant qui est celui de l'Évangile, celui de la gloire de Jésus-Christ dans cette région. C'est dans le nom précieux de votre Fils qu'on prie. Amen.